France Inter.
Enquête de politique, chaque semaine, nous explorons une idée, une tendance, un mouvement politique, son histoire et son actualité, son poids sur nos consciences et dans nos débats.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
L'anarchie, troisième volet, l'infusion libertaire depuis 1945.
Ashbury Avenue est devenu le lieu de rendez-vous de centaines de jeunes, pieds nus, habillés d'étranges façons, qui passaient le plus clair de leur temps assis sur l'herbe d'un parc. Cet été, plus de 100 000 hippies ont ainsi envahi San Francisco.
Nous, on a des objectifs en termes de casse qui sont clairs. Les multinationales, les grandes banques.
Enquête d'anarchie pendant tout un mois. Troisième volet aujourd'hui, l'anarchie contemporaine depuis la libération, où l'on va voir comment ce mouvement politique, qui est à la fois une façon de vivre, une utopie ou une évidence, a largement infusé les esprits d'après-guerre sans jamais s'imposer comme une idéologie, sans jamais proposer de modèle de société. Le dégoût de l'autoritarisme après deux guerres mondiales dévastatrices, ressenti par ceux qui les ont vécues, la soif de liberté et d'émancipation de leurs enfants qui ne voulaient plus de ce monde, et ces derniers temps, le sentiment que le pouvoir politique et économique détruit non seulement la dignité humaine, mais la planète. Le monde, tel qu'il va, entretient la flamme de l'anarchie sans que jamais celle-ci ne s'impose, un peu comme le souhaitait l'anarchiste italien Enrico Malatesta. Il ne s'agit pas de faire l'anarchie aujourd'hui, demain ou dans 10 siècles, disait-il, mais d'avancer vers l'anarchie aujourd'hui, demain, toujours. Pas sûr que la société avance véritablement vers l'anarchie, mais nous allons voir dans ce numéro d'enquête de politique que l'anarchie, l'esprit libertaire, infuse nos consciences, sont très présents dans la vie artistique et orientent bien des aspirations. Des libertaires culturels de l'après-guerre jusqu'aux luttes contre toutes les dominations, en passant par les hippies, les punks, les jeunesses qui se succèdent depuis bientôt 80 ans, ne démentent pas leur avidité de liberté, d'autonomie et de contre-culture. Les grandes idéologies sont mortes, remplacées par la loi du plus fort économique. L'anarchie n'a pas gagné, mais elle est toujours là. Pour faire ce voyage de 1945 à nos jours, nous aurons comme guide le documentariste de l'anarchie, Tancrède Ramonet.
Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, solde de coupons, famille royale. Prison d'État, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, grands ateliers du roi, asile de nuit du roi, gibier de potence du roi.
Donc après la guerre, l'anarchisme est plutôt culturel.
En fait, au lendemain de la guerre, c'est ça, les organisations se recréent. Le libertaire en France, par exemple, où va travailler Georges Brassens, tire à 100 000 exemplaires, mais c'est une sorte de feu de Bengale. Ça dure quelques mois, et puis le mouvement anarchiste se résorbe complètement. Ce ne sont plus que des artistes qui maintiennent vive la flamme libertaire. C'est pratiquement tout l'art à l'époque qui a de grandes figures libertaires. Alors évidemment, on parle souvent de Camus, qui a une vraie jeunesse anarchiste, qui dit quand même... Bakounine vit en moi, c'est pas rien quand même. Mais c'est aussi Prévert.
L'effort humain n'a pas de savoir-vivre. L'effort humain n'a pas l'âge de raison. L'effort humain a l'âge des casernes, l'âge des bagnes et des prisons, l'âge des églises et des usines, l'âge des canons. Et lui qui a planté partout toutes les vignes et accordé tous les violons, il se nourrit de mauvais rêves. Et il se saoule avec le mauvais vin de la résignation. Et comme un grand écureuil ivre sans arrêt, il tourne en rond dans un univers hostile, poussiéreux et bas de plafond. Et il forge sans cesse la chaîne, la terrifiante chaîne où tout s'enchaîne. La misère, le profit, le travail, la tuerie, la terrifiante chaîne d'or, de charbon, de fer et d'acier, de mâche-fer et de poussière, passée autour du cou d'un monde désemparé. la misérable chaîne où viennent s'accrocher les breloques divines, les reliques sacrées, les croix d'honneur, les croix gammées, les colifichets du malheur et la grande pièce de musée, le grand portrait équestre, le grand portrait de face, de profil, à cloche-pied, le grand portrait doré, le grand portrait du grand empereur, du grand sauteur, du grand moralisateur, la tête du grand emmerdeur, la tête de l'agressif pacificateur, la tête policière du grand libérateur, la tête d'Adolf Hitler, la tête de Monsieur Thiers, la tête du dictateur, la tête du fusilleur de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la tête odieuse, la tête malheureuse, la tête à claque, la tête à massacre, la tête de la peur.
Enquête de politique sur France Inter.
Henri Janson, le grand scénariste de l'après-guerre, c'est aussi Dubuffet, l'inventeur de l'art brut en France.
Tancrède Ramonet.
C'est Einstein qui est une sorte de socialiste libertarisant, mais c'est aussi par exemple Charlie Chaplin, effectivement, qui dans Un roi à New York met dans la bouche de son fils une très grande tirade libertaire.
Dites-moi, qu'est-ce que vous lisez là ?
Karl Marx.
Se peut-il que vous soyez communiste ?
Est-ce que j'ai besoin d'être communiste pour lire Karl Marx ?
Eh bien, si vous n'êtes pas communiste, qu'est-ce que vous êtes ?
Je ne suis rien.
Rien ?
Je déteste toutes les formes de gouvernement.
Mais il faut bien quelqu'un pour gouverner.
Et je déteste le mot « gouverner ».
Eh bien, si le mot vous est tellement odieux, disons qu'il faut des chefs.
Tous les chefs de gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
Mais mon cher enfant, la politique est une nécessité.
La politique est une règle que l'on impose au peuple.
Oh, enfin, dans ce pays, nulle règle n'est imposée. Chacun exprime le vœu de citoyen libre.
Promenez-vous un peu et vous verrez comme ils sont libres. Et si on n'a pas de passeport, on ne peut pas faire un pas.
Vous êtes libre de voyager.
À condition d'avoir un passeport.
Voulez-vous me laisser parler?
À condition d'avoir un passeport. Mais... Les éléments ont-ils besoin de passeport?
Tancrède Ramonet.
On a un film d'amour et d'anarchie qui gagne des prix à Cannes, les reparutions de Charlie Hebdo, Harakiri, beaucoup de figures qui se disent libertaires, comme Gilles Deleuze, qui donne une des plus belles définitions à ce moment-là de l'anarchisme, qui est cette étrange unité qui ne se dit que du multiple, soufflait un vent libertaire dans sa pensée. Et cette espèce de triomphe culturel de l'anarchisme, eh bien, il va susciter des convoitises. On va voir apparaître deux phénomènes très curieux, qui sont d'abord l'apparition d'un anarchisme de droite. Le terme apparaît en réalité vraiment dans les années 70. C'est dans l'héritage de Louis-Ferdinand Céline. Comme Céline s'était dit anarchiste dans les années 30, il fallait essayer de le laver des accusations de collaboration, d'antisémitisme et tout ça. Et donc, ceux qui veulent maintenir son héritage ou le faire connaître disent « mais en fait, il n'était pas nazi », alors qu'il avait quand même dit plutôt « dit Hitler qu'un Blum », il n'était pas nazi ni antisémite, en fait, il était anarchiste de droite. Et donc, dans cet héritage-là, tout un ensemble de personnalités vont se dire anarchistes de droite. Alors, des personnalités sympathiques, Gabin, des personnalités plus ou moins sympathiques, suivant comment on les considère, Sardou, Jean-Yann, Audiard, et des personnalités beaucoup plus suspectes, Rebattet, hein, des anciens collaborateurs de Je suis partout, etc. Dans les années 70, il y a le libertaro, l'anarcho-washing, c'est-à-dire que c'est une pensée très réactionnaire, centrée autour de soi, énoncé principalement par des mâles blancs d'un certain âge, ayant réussi dans la vie, Sardou, etc., et qui disent quelque chose qui est en fait très réac. Comme on ne peut pas se dire réactionnaire ou contre la bien-pensance, ça n'existe pas encore ces termes-là, et ben on dit qu'on est anarchiste de droite. Un des symboles de ça, qui est une anecdote que peu de gens connaissent, c'est que Jean-Marie Le Pen, en 1972, écrit son mémoire de fin d'études sur l'anarchisme en France. Et même Jean-Marie Le Pen, qui pourtant va créer le Front National dans quelques mois, eh ben, avoue, à la fin du mémoire, avoir une forme de sympathie pour l'anarchisme.
D'ailleurs, il publie dans sa maison d'édition de disques La Serpe des chansons anarchistes chantées par la Quatre Barbus.
C'est exactement la même stratégie, c'est-à-dire pour pouvoir, dans sa maison d'édition, éditer des chants du Troisième Reich, il édite des chants de l'Armée Rouge et des chants de la Commune. Pour faire passer ces théories un peu fascisantes, il va confesser avoir des tendresses pour l'anarchisme. Alors un anarchisme très particulier, pas l'anarchisme à cheveux longs qui fait des barricades et tout ça.
au pays de la gloriole, quand le panache et Terouane faisaient par le mariole le long du chemin de croix qui menait à l'échafaud le monde des aristos. Et un bourbon pour le 16, car le soleil se levait beaucoup trop rouge au 14 juillet. La particule trahissait les ci-devants que l'on emprisonnait. La particule trahissait les ci-devants que l'on emprisonnait. Elle emballe, je t'emballe, au pays de la révolte, le peuple était ulcéré des détours et virevoltes d'un monarque périmé. Il plantait le long des grilles le coup des fils de famille. Et Danton, tu perds la tête, la guillotine dressait son profil rouge au 14 juillet. Et la charrette transportait les ci-devants que l'on décapitait.
Jean-Yann, souvent taxé d'anarchiste de droite, c'est plus compliqué. Il incarne plutôt, avec talent et une grande culture, le français râleur, rétif au pouvoir et à l'autorité. Il se moque des 68ards autant que des gaullistes. Et il n'aime pas la police, mais surtout parce qu'elle embête les automobilistes. On écoute ici une étonnante chanson de Jean-Yann qui, sacrilège, écorne la Grande Révolution.
Un jour nouveau commençait, bleu, blanc et rouge au 14 juillet. Et la cocarde fleurissait, la liberté que l'on applaudissait. Oh bravo hein. Et la cocarde fleurissait, la liberté que l'on...
Jean-Yann, la gloriole en 1958.
Dansons la carmagnole, car au son du clairon, à se casser la gueule, est morte une nation.
Et ça, c'est la preuve pour vous, Tancrède Ramonet, que l'anarchisme avait gagné culturellement.
Voilà, c'est-à-dire que le phénomène de récupération qui est multiple, on vient de le donner avec l'anarchisme de droite, mais on a aussi aux États-Unis le mouvement des libertariens, des anarcho-capitalistes qui arrivent alors, reprennent la terminologie anarchiste, le costume de l'anarchisme, le masque de l'anarchisme, pour essayer de faire avancer leurs idées. Il y a quelque chose de libertaire dans le mouvement hippie. Alors, le mouvement hippie, il est vraiment inspiré des poètes, il part des poètes de la Beat Generation, de la rencontre entre les poètes de la Beat Generation à San Francisco et le mouvement contre-culturel étudiant de l'université de Berkeley. C'est vraiment la rencontre entre les poètes de la Beat Generation qui se disent anarchistes zen, anarchistes moraux. On est vraiment avec des gens qui connaissent l'histoire de l'anarchisme. C'est Kenneth Rex Ross qui organise des lectures anarchistes, republie des livres anarchistes. Et puis, ça va être la rencontre avec des grandes figures comme Paul Goodman, comme les idées de Murray Bookchin, les débuts de la pensée écologique. Il faut savoir que les anarchistes et Murray Bookchin sont parmi les premiers à alerter sur la question écologique. Et c'est la rencontre un petit peu de ça avec le mouvement, la musique, folk, etc., qui va créer les beatniks, les hippies.
Tout a commencé à San Francisco, il y a un an et demi déjà. Les touristes, venus voir le célèbre pont suspendu, ont découvert avec surprise les premiers hippies. 8 Ashbury Avenue est devenu le lieu de rendez-vous de centaines de jeunes, pieds nus, habillés d'étranges façons, qui passaient le plus clair de leur temps assis sur l'herbe d'un parc. Cet été, plus de 100 000 hippies ont ainsi envahi San Francisco. Cet été, on a assisté aussi à un durcissement de la guerre au Vietnam. Pour la plupart, issus des classes bourgeoises de la société américaine, tous ces jeunes ont décidé de refuser ce que leur civilisation leur proposait, la guerre, le racisme, l'injustice. Au christianisme, ils opposent la philosophie indienne. À la guerre, la non-violence. Ils refusent de considérer l'argent comme un moyen en soi. Ils essayeront de s'en passer. Contre le puritanisme ancestral, ils prônent la liberté sexuelle à tout prix. Contre la violence de la vie américaine, ils proposent l'amour. Pour fuir un peu plus, du moins le pensent-ils, la réalité qu'on leur offre, ils se droguent chaque jour davantage, et c'est là sans doute qu'ils se condamnent.
Des gens, sur le point de vue culturel et humain, se révoltent contre l'état fasciste de notre société. Et ils essayent de trouver un état de société où des valeurs humaines peuvent éclore. La société leur écrase la gueule.
Dites-le avec des fleurs, symbole de l'amour non violent.
Tancrède Ramonet, documentariste, spécialiste de l'anarchie.
On va avoir un événement qui est très important, qui est le Summer of Love en 1967 à San Francisco, qui est organisé par un groupe qui s'appelle les Diggers, qui est un groupe authentiquement anarchiste, qui est un groupe hippie authentiquement anarchiste, et qui met en pratique, derrière ce phénomène culturel, ces concerts, les prises de drogue, l'amour libre qu'on connaît, c'est-à-dire cette dimension très spectaculaire, tout un ensemble de pratiques d'organisation libertaire. La nourriture libre et gratuite qui est distribuée dans la rue, des magasins dans lesquels on ne paye pas, les free shops à l'époque, et c'est le premier hôpital libre et gratuit qui pratique l'avortement, avec 30 médecins qui sont hippies et anarchistes à l'intérieur, et ils créent autour de ce Summer of Love, ou pour accueillir ce Summer of Love, une véritable commune libre, libertaire. D'ailleurs, la répression qui s'abattra sur toute une partie du mouvement hippie prouve bien que ce mouvement était bien plus révolutionnaire que disons, ce que la mode ou le spectacle a voulu en faire.
France Inter, en quête de politique, Thomas Legrand.
En quête de politique, nous sommes en quête d'anarchie pendant tout ce mois de janvier, 4 volets. Et aujourd'hui, l'anarchie et l'esprit libertaire imprègnent confusément une partie de la société française. On avance dans le temps. L'anarchie ressurgit toujours sous différentes formes. À la fin des années 70, le mouvement punk apparaît en Angleterre. Un souffle désespéré qui se veut chaotique, destructeur, destroy.
Alors le punk, c'est une déflagration, évidemment, c'est l'envers du mouvement hippie. La crise est passée par là, et en 1977, résonne sur les ondes, tout d'un coup, en Angleterre, un titre qui s'appelle Anarchy in the UK, qui est le premier titre des Sex Pistols. Et qui est un coup de tonnerre. Et alors, on a beaucoup dit et beaucoup caricaturé le mouvement punk en disant que c'était une récupération marketing, que c'était un anarchisme spectaculaire ou que c'était, ça n'était que une provocation. Le punk a une charge politique qui est extrêmement forte. D'abord, quand il arrive, c'est d'abord un mouvement qui renoue avec pratiquement l'anarchisme avant Proudhon, un anarchisme synonyme de désordre et de chaos. Dans un monde en crise, finalement, il y a cette vision nihiliste qu'il faut tout détruire et que peut-être on pourra, sur les ruines, reconstruire ou pas. Une critique qui est une critique de l'industrie musicale, une critique de la société de consommation, une critique du monde, de la société de consommation industrielle, une critique de l'industrie, du travail. Le premier disque des Sex Pistols est vraiment un manifeste quand on le regarde. C'est un disque qui parle du mur de Berlin, c'est un disque qui parle de l'avortement, c'est un disque qui parle de la monarchie en Angleterre. Et évidemment, les Sex Pistols vont être carrément considérés comme les ennemis publics numéro un. Leurs titres vont être interdits. Les membres du groupe vont se faire attaquer au couteau dans la rue. Et la police va interdire pratiquement leurs concerts les uns après les autres. Finalement, ce mouvement punk ne va pas durer très longtemps. Okay, punk is dead. All about the old days.
Yes, that's right. Dès 1979, si mon souvenir est bon, Crass, un groupe anarcho-punk qui va venir, va chanter La mort du punk, une chanson qui s'appelle Punk is Dead. Et ces groupes vont pas forcément détruire la société, mais ils vont surtout se détruire eux-mêmes en se séparant, en mourant d'overdose ou en étant fortement réprimés, et, ou parfois même en se faisant racheter. «
Mais la traînée, la queue de comète qu'ils vont laisser est très impressionnante. C'est toute une culture qu'ils drainent derrière eux. C'est tout un ensemble de pratiques qu'ils ont popularisées. Le fait de s'habiller en vêtements de récupération, ils ont revivifié le mouvement squat, ils ont apporté des questions sur l'exploitation animale. Il y a un mouvement punk, tout un ensemble de groupes punk féminins qui sont sortis à ce moment-là, qui vont donner ensuite le mouvement Riot Girl. C'est vraiment les femmes qui prennent le devant de la scène. Voilà, c'est cette idée du do-it-yourself qui est vraiment anarchiste, et c'est n'attendons pas que d'autres le fassent à notre place, faisons notre musique nous-mêmes, habillons-nous et créons notre mode nous-mêmes, faisons les choses nous-mêmes. Et ça, c'est absolument révolutionnaire, radical, et ça laisse des traces.
Et c'est l'heure de notre chronique livre avec Aurélie Marciro. Bonjour Aurélie.
Bonjour Thomas.
Votre livre, cette semaine justement, a trait au mouvement punk. Punk is not dead, petit lexique franco-punk, chez Nova Édition, signé Luc Robben et Solveig Serre, sorti en 2019.
Oui, le punk, Thomas, on ne sait pas trop quand dater son début ni sa fin, mais pour beaucoup, la fin, c'est le 14 janvier 1978, quand s'arrêtent les Sex Pistols. Autre date phare, le premier festival punk à Mont-de-Marsan, donc en France, en 1976. En 77, à la deuxième édition, 4000 personnes venues de toute l'Europe s'y pressent, et les Français découvrent à la télévision les images de ces drôles d'hurluberlus. Alors, dans ce livre, les auteurs s'interrogent. À l'époque, pas d'internet, les téléphones sont dans les chambres des parents ou dans les cuisines. Je cite, rien ne permet d'expliquer comment des groupes implantés à des milliers de kilomètres les uns des autres, Brisbane, Londres, New York ou Paris, ont pu inventer au même moment un son partagé, proche, cohérent dans sa diversité et son offensive. Mais cette pulsion de la jeunesse, ce mouvement, donne des clés de compréhension, Thomas, du monde actuel.
Donc, à la lettre A de ce lexique, on trouve, ah bah ça tombe bien, c'est le thème de notre émission, le mot anarchisme.
Ben oui, le A cerclé est omniprésent dans l'imagerie punk, le mot anarchiste dans les textes des chansons. Mais, écrivent les auteurs, le punk ne renvoie pas, à ses débuts au moins, aux textes politiques fondateurs. C'est un anarchisme pratique, bien plus que théorique, par la nature même de ses engagements et de son activisme. Pas d'hiérarchie, pas de code, par exemple. Chacun est légitime de faire de la musique, et cela s'entend souvent d'ailleurs. Le punk ne bouleverse pas les critères de reconnaissance artistique, il refuse leur existence. L'autogestion est également une caractéristique, que ce soit dans les fanzines, l'organisation des concerts, etc.
Et puis on assiste, dans les années 80, à un tournant politique.
Oui, via l'engagement antifasciste de certains groupes et l'émergence du rock alternatif, punk et mouvements autonomes vont se mélanger tant que les frontières se brouillent. Je vous conseille cet ouvrage qui va vous rappeler des souvenirs, peut-être, Thomas. Les groupes OTH, Parabellum, à cheval entre punk et rock, des personnages, Alain Pacadis ou Edith Nilon, et puis les trois pages sur le pogo sont irrésistibles. Chorégraphie aussi brève qu'intense, le pogo tranche, je cite, avec les épisodes à l'anguille, les sittings hippies, voilà, qui avaient marqué les années planantes du flower power. Le pogo donne à chacun la liberté de s'exprimer. C'est l'une des caractéristiques qui rend unique cette pratique dans le cadre de sociétés contemporaines normalisantes, dominées par l'obsession du contrôle et de la sécurité. Alors, au pogo citoyen.
Ah, le pogo, la danse anarchiste. Merci Aurélie. On va maintenant retourner près du canal de l'Ourcq à Paris, dans les locaux de la maison de production, un collectif bien sûr, de Tancrède Ramonet.
Enquête de politique.
Après le punk, à la fin des années 80, le grunge.
Oui, c'est le grunge, c'est vraiment là aussi un petit peu comme le punk avec Nirvana, c'est un coup de tonnerre, c'est une irruption comme ça dans un ciel qu'on croit bleu, puisque à ce moment-là, le mur est tombé, on pense que c'est la fin de l'histoire, le ciel du capitalisme est tout bleu. Et tout d'un coup, il y a cet orage grunge qui arrive avec Nirvana, qui montre une insatisfaction de la jeunesse. Et Nirvana est un groupe beaucoup plus lucide et conscient, comme on dit aujourd'hui, qu'on ne le croit. Kurt Cobain demandait notamment à ce qu'il y ait des acerclés qui soient présents de manière presque subliminale dans ses clips. Il voulait faire passer ce message-là. Il était profondément anarchiste. Alors, anarchiste à la manière des punks, c'est vraiment une musique de la révolte qui, exactement comme le punk, est assez vite récupéré, même si ses figures ou sa grande figure, Kurt Cobain, parvient à échapper à la récupération, mais par le suicide.
Ah
Parallèlement, donc dans les années 80, parallèlement à la culture, il y a aussi une action militante anarchiste qui renaît.
Voilà, dans les années 80, c'est ce qu'on appelle le mouvement autonome. Alors le mouvement autonome ne se réduit pas à l'anarchisme, mais il y a de l'anarchisme dedans. Disons que si on voulait un peu résumer la pensée du mouvement autonome, c'est cette idée que les paroles divisent et les actions unissent. Et donc, la question n'est pas de faire des grandes théories, mais d'essayer concrètement de mener des actions pour voir qui est avec nous et qui est contre nous. Et donc, ce mouvement autonome, il va fonctionner comme un rhizome. Alors, sa partie émergée culturelle la plus spectaculaire, c'est évidemment le rock alternatif. On va le voir dans le mouvement squat, on va le voir dans la création des premiers mouvements antifa. Il y avait eu les antifascistes dans l'entre-deux-guerres. Là, on a ces groupes antifa qui luttent contre cette montée du Front National et contre la présence des skinheads.
Le SCALP, la section carrément anti-Le Pen.
Donc c'est le SCALP, la section carrément anti-Le Pen, créée à Toulouse et qui très rapidement va connaître un grand succès dans toute la France avec des antennes du SCALP qui se créent partout, qui ensuite devient réflexe.
Créée en 86 en réaction à la montée du Front National, la SCALP, section carrément anti-Le Pen, fait des émules en Franche-Comté. Un jeune sympathisant de ce mouvement punk est sur le point de créer une antenne locale à Besançon.
Bienvenue en banlieue rouge !
L'univers de Kohamu, 19 ans, c'est un réduit de 3 mètres sur 5, entièrement tapissé de plastique noir. Noir pour l'anarchie, car c'est ici qu'il prépare la guerre civile, l'insurrection contre des dirigeants et un système auquel il ne croit plus. Kohamu est aussi végétarien, mais surtout adhérent au groupe SCALP, un mouvement punk antifasciste.
C'est les premiers groupes de défense animale, de lutte contre le nucléaire, et puis aussi, il faut le dire, une organisation de lutte armée en France, qui là non plus ne peut pas être réductible à de l'anarchisme, mais c'est Action Directe, dont le nom, en tout cas, s'inscrit dans l'histoire de l'anarchisme, et qui est vraiment une expression du mouvement autonome.
On avance un peu dans le temps, début des années 2000, l'écologie prend le dessus dans la lutte anarchiste.
La réapparition spectaculaire de l'anarchisme à la fin des années 90, début des années 2000, c'est au travers du Black Bloc et notamment dans ce que l'histoire populaire appelle la bataille de Seattle. C'est-à-dire qu'il y a un sommet de l'Organisation mondiale du commerce qui a lieu à Seattle fin 1999. Le mouvement altermondialiste se rassemble, des personnalités, des organisations appellent à faire une grande mobilisation. Et là, un Black Bloc surgit, vient à la fois défendre le cortège contre les violences policières et essayer de accentuer le phénomène de conflictualité dans le mouvement social à ce moment-là, essayer d'aller plus loin.
Alors, il faut, Tancrède Ramonet, là, il faut expliquer Black Bloc, parce que c'est vraiment sujet à plein de fantasmes, c'est pas une organisation en tant que telle. Black Bloc, c'est une méthode.
Le Black Bloc, c'est vraiment une tactique qui est appliquée en manifestation, qui consiste donc à s'habiller de noir principalement. Il y a d'autres types de Black Bloc, de blocs, mais à s'habiller de noir pour non seulement préserver son anonymat à soi, mais pour permettre à ceux qui vont aller mener des actions de pouvoir se réfugier dans la masse.
Donc le noir, c'est originellement la couleur de l'anarchisme, mais alors que au début des années 2000, Internet et les nouvelles méthodes de surveillance de masse commencent à apparaître, il y a une nécessité de retrouver cette couleur de l'anarchisme, de se rendre invisible.
Voilà, c'est à la fois une réappropriation, une manière d'apparaître pour montrer sa force dans le cadre d'une manifestation, montrer un cortège de têtes tout de noir vêtu à l'avant de la manifestation, et en même temps, pour les individus, la possibilité de disparaître dedans, de ne pas être identifié.
Le bloc, c'est juste un mode d'action, c'est pas un parti. On peut venir individuellement dans le bloc avec sa cagoule, son masque de ski et son caouet noir et jeter des choses sur la police. Maintenant, si on veut réellement s'organiser en tant que gens du bloc pour mettre en échec la police avec des moyens qui nécessitent d'être à plusieurs, ouais, c'est un milieu compliqué à intégrer. Mon objectif, c'est pas de tuer des policiers. Jamais de ma vie, je voudrais tuer des policiers. Bah, ça reste des gens qui subissent aussi le système que nous, on veut détruire. Nous, on a des objectifs en termes de casse qui sont clairs. Les multinationales, les grandes banques, les assureurs. Enfin, en fait, on n'est pas là pour péter un abribus. Si on pète un abribus, c'est parce que c'est JC Déco qui les fabrique, que c'est un géant de la pub qui a des dispositifs anti-pauvres pour pas qu'ils dorment dedans. Et ça, c'est honteux.
L'idée, évidemment, c'est de détruire les symboles du capitalisme.
Tancrède Ramonet.
Pour montrer à la manifestation et à l'intérieur de la manifestation qu'on peut vivre dans un monde débarrassé du capitalisme. C'est vraiment, on pourrait dire, une figure de style. Et puis, il y a une idée aussi, il ne faut pas la perdre de vue, qui est très importante, qui est une idée aussi d'autodéfense à l'égard de la manifestation. On sait qu'il y a des actions de répression violente qui sont faites par la police. Le Black Bloc, en se portant en tête, en attirant sur lui les foudres de la répression, en quelque sorte, peut protéger ce qui vient derrière. Alors évidemment, il y a des tas de débats là-dessus. Souvent, en quelque sorte, on a des fantasmes autour de ça, mais c'est une stratégie qui épargne bon nombre de commerces dans les manifestations. En réalité, les bars, les petits épiciers, n'ont rien à craindre du Black Bloc. C'est, les tris est très clair, la stratégie du Black Bloc est vraiment raisonnée, les gens qui y participent savent exactement ce qu'ils font. Défiler en chantonnant entre nation et république, ben, on a bien vu entre les années 80 et les années 90 que ça n'avait en rien ralenti l'essor du néolibéralisme. Et donc on arrive au tournant des années 2000 à l'idée qu'il faut jeter le pavé dans la mare et, ou dans la vitrine.
Il y a aussi une volonté de spectaculariser. Ils sont impressionnants, ces Black Blocs. Ils donnent l'occasion à, par exemple, une presse plus conservatrice de crier au loup et de renforcer la répression. Et ça, c'est ce que reprochent les syndicats un peu pépères, comme vous disiez.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une mise en scène ensuite de ces images qui sont en fait, qui servent des deux côtés en quelque sorte. Pour tout un ensemble de la jeunesse, ces images spectaculaires de vraiment de riot, si on voulait utiliser le terme anglais, vont provoquer une forme d'adhésion. Ça va donner à des gens envie d'aller participer. Et de l'autre côté, repris dans les médias, dans les chaînes d'infos en continu, eh ben on va créer l'espèce de peur autour du casseur, etc. Là, il n'y a aucune raison en réalité, à part pour les tenants du pouvoir, d'avoir peur du Black Bloc.
Enquête de politique est réalisée par notre metteur en onde Christophe Imbert avec les archives de Franck Olivard et la programmation musicale très fournie aujourd'hui de Thierry Dupin. Merci à Julien Michel, à la technique. On va retrouver dans quelques instants Tancrède Ramonet pour finir cette évocation de toutes les formes que prend l'anarchie depuis 1945. Mais avant cela, nous allons aller à Montpellier pour interviewer Jean-Jacques Gandini. Jean-Jacques Gandini est un avocat anarchiste, c'est possible, vous allez voir. Et j'ai voulu évoquer avec lui la pente sécuritaire depuis maintenant une vingtaine d'années. Et bien sûr, ça s'est accéléré avec l'empilement de plusieurs lois ou de pratiques policières antiterroristes. La préoccupation sécuritaire prend le pas sur l'extension des libertés. Ça inquiète un avocat anarchiste. Merci aux amis de France Bleu Héros d'avoir permis cette liaison. Bonjour Jean-Jacques Gandini.
Bonjour Thomas Legrand.
Alors vous êtes juriste et vous êtes aussi anarchiste ou libertaire, je ne sais pas quel est le terme que vous préférez. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, juriste et libertaire ?
Oui, alors d'abord je dirais que je suis d'abord, et plutôt que libertaire, je dirais carrément anarchiste, et c'est les circonstances de la vie qui m'ont amené effectivement à m'intéresser au droit et à devenir avocat. Au départ, je faisais plutôt du droit, mais public et sciences politiques. Et c'est avec l'évolution des choses, la loi anti-casseur de 1970, que pas mal de copains libertaires et anarchistes avaient des problèmes avec la justice. Et donc, ils ne savaient pas trop à qui s'adresser comme avocat. Ils m'ont dit, écoute, tu as fait des études de droit, ça serait bien que quelqu'un comme toi devienne avocat, ça pourrait nous servir. Donc c'est dans ce sens-là que je me suis engagé comme avocat pour défendre, comme on dit, tous les sans, les sans droit, les sans domicile fixe, les sans papier, les sans travail, etc. Et pour essayer de rapporter une aide, parce que c'est ad vocatus, c'est pas à leur place, essayer de faire changer, si possible, les règles de droit dans leur intérêt.
Mais vous n'êtes pas contre les règles de droit?
Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, les anarchistes se méfient du droit, hein, parce que tel qu'il fonctionne dans nos sociétés, comme on dit, démocratico-étatiques, il est bien évident que c'est souvent un instrument de légitimation et de perpétuation de l'injustice. Mais bon, les anarchistes portent par contre un jugement positif sur le droit, lorsque les règles dont doit se doter d'ailleurs tout groupe humain, quel qu'il soit, et par décision collective et librement consentie entre eux, sont basés sur des principes effectifs et conjugués de liberté, égalité et de solidarité.
Ce qui compte, c'est la façon dont est fabriquée la norme, en fait.
Voilà, justement, et à partir de là, c'est essayer de la retourner en quelque sorte. C'est pour ça que dans nos échanges, je vous avais parlé d'un colloque auquel j'ai participé et qui peut faire sourire au niveau de l'intitulé, puisqu'il s'agit des juristes anarchistes de Sciences Po Paris, où ils m'ont demandé d'intervenir sur le droit au logement contre le droit de propriété. Le droit doit être un usus, un usage, et non pas un abusus, un abus. Et que par conséquent, lorsqu'il y a des logements qui sont vacants depuis X temps, eh bien, il est logique que, vu la pression pour se loger, eh bien, que des gens, par état de nécessité, eh bien, occupent ces logements.
Jean-Jacques Gandini, on parle souvent du risque en France, dans nos démocraties libérales, de la pente autoritaire. Est-ce que vous voyez dans les lois depuis quelques années, vous avez parlé de la loi anticasseur, la célèbre loi anticasseur, cette pente et ce risque.
Il y a donc effectivement une pente. Je fais partie du syndicat des avocats de France. Eh bien, on fait une université chaque année et dont le thème, justement, l'année dernière, c'était « Tous suspects ». Et cette année, c'est le temps de la démocrature. Jeu de mots, évidemment, entre démocratie et dictature. Bien évidemment, on n'en est pas en dictature, faut pas exagérer. Mais il y a une pente. Toutes ces lois, depuis quelque temps, ont tendance à faire en sorte que les gens soient poursuivis, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Et pour en venir aux anarchistes, c'est ce qui s'est passé avec le groupe antifasciste Lyon et Environ, dont M. Darmanin avait demandé la dissolution, et le Conseil d'État, parfois il y a des réactions, le Conseil d'État, en mai 2022, a rejeté cette dissolution. Je me permets de citer rapidement son argumentaire.
Alors, juste Jean-Jacques Gandini, pour nous rappeler la chose, c'était basé sur la loi dite séparatisme.
Absolument, c'est cette fameuse loi séparatisme. Bon, elle a été réamendée en quelque sorte. Elle prévoit qu'on peut poursuivre l'incitation à des agissements violents à l'encontre de personnes et des biens. Voilà. Et donc, c'est ce que reprochait à ce GAL,
G-A-L-E, groupe antifasciste,
Lyon et environ, parce que dans ses publications, soi-disant, ils incitaient à la violence.
Mais le Conseil d'État a cassé ça.
Exactement. Le Conseil d'État, je vous dis, c'est très rapide, il y a quatre lignes. Hein. Le groupement GAL, en tant que tel, n'a pas appelé à commettre des actions violentes.
Donc là, on vient d'assister, avec vous, Jean-Jacques Gandini, à l'énoncé d'un arrêt du Conseil d'État, d'une décision du Conseil d'État, par un anarchiste. C'est beau ?
Eh oui, c'est beau, comme vous dites. D'autant que, très souvent, le Conseil d'État ne nous suit pas. Il faut bien se dire que les anarchistes ne vivent pas ex cathedra. On vit dans la société d'aujourd'hui. Le but, c'est de la changer. Mais de la changer, si possible, de l'intérieur, en faisant en sorte que par son action qui sont menées, eh bien, on arrive de plus en plus à conscientiser les gens et faire en sorte que on se dirige vers une société libertaire.
France Inter, en quête de politique.
Il nous reste un peu de temps avec Tancrède Ramonet pour parler des ZAD, ces petits îlots dans lesquels l'esprit libertaire se régénère et invente sa forme contemporaine.
Les ZAD s'inscrivent dans, disons, une théorie qui a été formulée par Hakim Bey, qui a écrit un livre qui s'appelle TAZ, qui veut dire zone autonome temporaire, et qui pense que dans le phénomène totalitaire du capitalisme, il y a des endroits qui sont des interstices du pouvoir, qui peuvent être sur Internet ou qui peuvent être dans la réalité, et qu'il faut essayer d'aller créer dans ces endroits-là des espèces de petites utopies pirates. Ça peut être une rave party, ça peut être un endroit sur le dark web, ça peut être dans un lieu d'occupation contre un grand projet inutile et contre son monde. Là, on est à un endroit où le pouvoir, en quelque sorte, est vacant, et c'est l'occasion de tenter d'y faire sécession et de créer un mouvement autogestionnaire. Et donc, on voit partout dans le monde, alors ça, c'est Akinbay le théorise, il le théorise presque tout seul.
C'est arrivé comme une épidémie de variole. Ça s'est répandu petit à petit, irrésistiblement, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'en soit fini. Il n'y a plus de lieu vraiment sauvage où la civilisation ne soit jamais entrée. S'il en reste quelques parcelles, c'est parce qu'elles sont en lutte contre la civilisation.
Mais en fait, il théorise quelque chose qui est déjà en train de se mettre en pratique, il y a déjà une histoire, mais on le voit dans les années 90, de manière la plus connue et la plus spectaculaire, en quelque sorte, au Chiapas avec le ZLN, les zapatistes. On la voit dans les mobilisations contre les grands projets inutiles, type la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et cette théorie de des zones autonomes temporaires, elle décrit assez bien tout un ensemble de pratiques qui sont menées dans des lieux. C'est aussi la commune d'Exarchia à Athènes. Il y en a partout. On peut faire une carte, une cartographie de toutes ces zones qui sont en plus interconnectées, comme on l'a vu dans les moments de répression où les combattants de chacune de ces zones-là s'envoient des messages d'encouragement. Le Chiapas envoyait des messages d'encouragement à la ZAD. La ZAD aux combattants et combattantes kurdes au Rojava, tout ce beau monde encourageant d'autres endroits, d'autres zones à se créer. C'est vrai que dans les années 2010, on assiste à un regain de ce type de tactiques qui sont en quelque sorte le contrepoint aussi de la stratégie du Black Bloc dont on parlait, c'est-à-dire que les années 2000-2010 ont été une année de forte conflictualité à l'intérieur des manifestations. On va le revoir à la fin avec le mouvement des Gilets jaunes. Et un certain nombre de personnes se disent que, en fait, face à cette police qui est surarmée, surentraînée, qui s'est maintenant désormais nassée, il faut leur opposer de la non-violence. Et les images vont montrer la violence de l'État et, en quelque sorte, va décrédibiliser l'action de l'État. Et donc, il y a cette idée de non seulement mener des actions de désobéissance civile, de génération extinction-rébellion, de s'enchaîner, d'occuper un pont, mais aussi de se filmer et de filmer la répression à laquelle on va être soumis, ces gaz lacrymogènes dans la tête de jeunes gamins, etc., pour montrer la gratuité de la violence de l'État et en même temps montrer aussi la menace qu'incarnent les idées qui sont défendues là. Et ça va avec quelque chose qui est plus général, un petit peu comme dans les années 70, mais sans toujours dire son nom. Je pense qu'on a une sorte de diffusion avec la disparition, disons, du communisme organisé, du marxisme-léninisme. On a une diffusion qui s'est faite sur ces 30 dernières années d'idées et de pratiques anarchistes qui se sont vraiment répandues à l'intérieur du mouvement social, dont le plus souvent on oublie l'origine, on ne sait pas, mais qui sont présentes dans l'idée d'avoir des mouvements horizontaux, qu'on ne veut plus avoir de représentants, on doit créer des assemblées de parole, qu'on doit faire attention aux expressions minoritaires. Toutes ces choses-là, elles viennent de l'anarchisme du 19e siècle. Ce sont vraiment les anarchistes qui ont pensé ça, qui l'ont mis en pratique à plusieurs moments de l'histoire, et qui aujourd'hui se sont un petit peu répandus sans que parfois les gens sachent pourquoi. Et c'est pour ça que David Graeber, il a pu parler au moment du mouvement Occupy Wall Street de ces nouveaux anarchistes qui ont des idées anarchistes, des pratiques anarchistes, mais qui ne savent pas qu'en réalité ils sont anarchistes.
Dans ce que vous venez de décrire, Tancrède Ramonet, on a l'impression que c'est un cycle toujours le même depuis 200 ans qu'existe l'anarchisme. Il y a toujours des moments où il y a des accès de violence, des tensions, et puis devant la répression, on s'aperçoit que c'est peut-être mieux d'essayer le pacifisme ou la non-violence, et puis ça revient.
La dialectique et l'analyse des dialectiques, c'est vieux comme Hegel, c'est antérieur à Marx. Mais la particularité de l'anarchisme, c'est d'être une pensée sans dogme. Et donc, l'anarchisme propose une sorte de boîte à outils dans laquelle on peut piocher en fonction de l'analyse qu'on peut avoir des situations. La violence est un outil qui peut être utilisable. La non-violence est un autre outil. On peut décider d'agir avec des petits groupes organisés, ce qu'on appelle des minorités agissantes. On peut aussi essayer de créer des mouvements de masse. On peut passer par la culture ou on peut passer par la grève générale sauvage. tout l'art et toute la question, c'est à quelle dose on doit mettre quoi pour essayer de faire aboutir, en quelque sorte, ou de précipiter la révolution qu'on veut. Il y a des révolutions qu'on peut faire à des échelles individuelles, essayer soi-même de ne pas être dans des situations où on domine, où on impose ses choix, sa manière de voir à d'autres, et en même temps se poser aussi la question de comment est-ce qu'on s'émancipe par rapport aux formes de domination qui nous sont imposées. Et donc, dans l'anarchisme, on peut piocher, et finalement, tout le monde peut, en quelque sorte, réfléchir et essayer de voir et d'apporter sa réponse. Donc oui, il y a la dialectique mouvement social, travailleur, autres groupes, ce qu'on appelle les groupes affinitaires. Est-ce que c'est pas plutôt les jeunes? Est-ce que c'est pas plutôt les gens de cité? Déjà du temps de Bakounine, Bakounine croyait que c'était l'umpenprolétariat qui pouvait être un sujet révolutionnaire. Donc l'anarchisme, il échafaude des pensées, des idées, des pratiques qui doivent être réinterprétées tout au long des périodes en fonction des situations auxquelles on est confronté, et non pas un dogme, une théorie politique qu'il faudrait appliquer, un parti avec son avant-garde éclairée, la masse des travailleurs, on fait ça comme ci, puis ensuite comme ça, puis ça, puis ça, puis ça. Voilà. L'anarchisme a cette malléabilité qui lui permet aussi de s'adapter à toutes les situations.
Parce que la période qui s'ouvre est une période propice à l'anarchisme.
Ce que je crois fondamentalement aujourd'hui, c'est que on voit que on a de plus en plus une prise de pouvoir, une montée en hégémonie de l'extrême droite à travers des bastions et des citadelles culturelles, pour reprendre une terminologie gramscienne. En face, la seule pensée suffisamment organisée, développée et efficace et popularisée, c'est la pensée libertaire au sens large du terme. C'est sans doute vers une confrontation culturelle, en tout cas déjà dans un premier temps, qu'on va entre ces deux positions-là. Je pense que le néolibéralisme est discrédité, la social-démocratie a montré son incapacité à changer les choses, et aujourd'hui, c'est en gros les fascistes ou les libertaires...
On va vers une confrontation, alors?
Sans doute, oui, oui, il y aura confrontation. Les fascistes la veulent.
Certains libertaires aussi.
Non, c'est...
La croix inévitable.
Voilà, la croix plutôt inévitable.
Une confrontation entre la mouvance libertaire au sens large et l'extrême droite, est-ce une possibilité, comme l'entrevoit Tancrède Ramonet, dans une société qui se polarise et dont les débats ne sont plus charpentés, structurés, canalisés par les puissants partis politiques? Beaucoup le croient, certains le souhaitent. Je vous signale pour finir la formidable série de documentaires « Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchie » par Tancrède Ramonet, une coproduction Arte et Temps Noir. La semaine prochaine, dernier volet de notre mois de janvier anarchiste avec la lignée de l'écologie libertaire, Élisée Reclus, Jacques Ellul et leurs émules. On reparlera plus longuement des ZAD. Beaucoup de jeunes choisissent de bifurquer et relisent ces auteurs qui prônent une écologie de l'exemple, de l'expérience, du choix de vie hors des structures partisanes classiques. Vous pouvez bien sûr réécouter les trois premières émissions consacrées à l'anarchie en podcast, toutes les précédentes aussi d'ailleurs. Enquête de politique est également rediffusée le dimanche soir après le journal de 23h. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, eh bien, c'est la politique qui s'intéressera à vous.